Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'économie. Aujourd'hui, nous partons à la recherche des signaux faibles de la reprise.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Troisième jour de notre série consacrée au redémarrage de l'économie mondiale. La pandémie et la récession n'ont pas touché tous les pays de la même façon et la France figure aujourd'hui parmi les économies les plus affectées par la crise. L'activité peine à repartir et la dette publique devrait atteindre le montant record de 120% du PIB à la fin de l'année. De quoi nourrir le débat sur la mission de l'État? Doit-il prendre le contrôle de la relance ou se contenter d'un soutien discret aux entreprises? C'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons élaborer une stratégie de sortie de crise avec nos deux invités. Bonjour Philippe Martin.
Bonjour.
Vous êtes président délégué du Conseil d'analyse économique, ancien conseiller économique d'Emmanuel Macron à Bercy et professeur à Sciences Po. Et bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui.
Je n'ai jamais caché que le plus dur était devant nous. Et même si c'est difficile à entendre un jour de soleil où les cafés rouvrent et où les terrasses rouvrent, le plus dur, du point de vue social et du point de vue économique, est devant nous. Tout simplement parce que le choc de la crise a été extrêmement violent en France. Nous avons été très touchés par le virus, nous avons pris des mesures très fermes et efficaces pour protéger la santé des Français, mais l'économie a été quasiment à l'arrêt pendant 3 mois. Oui. Et ça va se payer dans la croissance. La croissance en France en 2020 sera, la récession plutôt, le terme est plus adapté, sera de moins 11%.
Une récession de 11% et une économie française particulièrement touchée par la crise. Voilà ce que nous disait la semaine dernière le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. La France est-elle plus affectée que ses voisins, Philippe Martin?
Oui, c'est vrai. C'est la France qui, par rapport à l'Espagne, à l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, a eu des chiffres au premier trimestre qui étaient les plus mauvais, à peu près du même niveau que l'Italie. Le meilleur prédicteur de la chute d'activité, c'est en gros les restrictions sanitaires. L'université d'Oxford a fait une grande étude pour essayer de comptabiliser les restrictions sur les écoles, sur les commerces, sur le transport. Et c'est un très bon prédicteur de la chute d'activité. Et donc, comme la France a été très stricte dans le confinement, la chute d'activité a été très forte. Et comme aujourd'hui encore, d'ailleurs, le confinement est plus strict, même si on a commencé à déconfiner que dans d'autres pays, certainement, au deuxième trimestre, on sera aussi en retard par rapport à d'autres pays. Alors, il y a les restrictions sur le confinement qui ont été très importantes. Il y a aussi potentiellement d'autres choses qui expliquent la chute de PIB. C'est notre structure sectorielle, le tourisme, par exemple, un certain nombre de services. Et puis, potentiellement, je crois qu'il y a des problèmes structurels plus longs qu'on connaît bien, la mauvaise qualité des relations sociales en France, le manque de confiance vis-à-vis des acteurs économiques ou institutionnels, qui a peut-être aussi joué un rôle dans le fait qu'un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas fermés ont fortement chuté. Je pense à la construction, par exemple, ou même le secteur manufacturier.
Effectivement, en France, 80% de l'activité du BTP s'est arrêtée, contre 20% en Allemagne, par exemple. Pour vous aussi, Jean-Marc Daniel, l'économie française peine à repartir à cause de la rigueur de son confinement et de la structure de son économie?
Je crois qu'elle a subi particulièrement violemment ce confinement, et elle l'a subi d'autant plus violemment que la sortie du confinement, le déconfinement, a été géré de façon un peu conditionnelle. Comme je dis souvent, gouverner, c'est être au présent, préparer le gouvernement quand on est dans l'opposition, c'est au futur. Et nos dirigeants ont beaucoup gouverné au conditionnel. Ils ont dit, on déconfinera si, on fera ça si, etc., etc. Je pense néanmoins que la situation est moins grave que ce qu'on nous raconte. Il y a deux indicateurs que je trouve assez intéressant, c'est que la reprise de l'activité mesurée par la consommation d'électricité est assez forte. On voit que les gens ont envie de travailler, ont besoin de travailler, veulent travailler. Et donc, un certain nombre d'indicateurs de vie quotidienne, qu'indiquent, que mesure la consommation d'électricité sont plutôt assez favorables. La deuxième chose qui me frappe, c'est que ce peuple que l'on définit comme étant des Gaulois réfractaires a été relativement discipliné pendant la période de confinement. Il n'y a pas eu de manifestation contre le confinement comme il y a pu y avoir en Allemagne, à Stuttgart, en Suisse, à Berne ou aux États-Unis. Et donc, je pense que les Français ont envie, la volonté manifeste de travailler. Et donc, dès lors que les entreprises sont pleinement libres d'organiser le travail, je pense qu'on va vers une reprise qui pourrait être plus forte et plus rapide que ce que l'on anticipe.
Philippe Martin, quels sont aujourd'hui les secteurs les plus touchés en France et qui devraient avoir le plus de mal à redémarrer ?
Alors, on pensait que ce serait beaucoup le secteur manufacturier parce que on pensait que les chaînes de valeur auraient du mal à se remettre en place. Apparemment, c'est moins le cas. Et de ce point de vue, un peu comme Jean-Marie Daniel, peut-être on est relativement un peu plus optimiste aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un mois. Bon, et puis, il y a des secteurs dont on sait très bien qu'ils vont avoir beaucoup de mal. C'est évidemment le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration. Et dans le secteur manufacturier, vous avez des secteurs qui seront touchés non pas par les restrictions sanitaires, mais qui vont être touchés par la baisse de la demande. C'est évidemment, par exemple, l'aviation, tout le secteur aussi de l'aéronautique. Et donc ça, c'est des secteurs qui vont avoir plus de mal, mais pour des raisons un peu différentes. C'est qu'il va y avoir une très forte chute de la demande, alors que pour les restaurants, c'est parce qu'ils vont avoir des difficultés à réouvrir, alors même que les restrictions sanitaires seront encore très prégnantes.
Vous parliez, Jean-Marc Daniel, de la consommation d'électricité. Qu'est-ce qu'on peut dire plus largement de la consommation de biens matériels et de la consommation de services aussi ? Elle redémarre aujourd'hui, mais plutôt lentement ?
Oui, elle redémarre d'autant plus volontiers que les Français, ils n'ont pas pu dépenser pendant la période de confinement, donc les comptes courants se sont gonflés, ils ont mis de l'argent sur le livret A qu'ils peuvent récupérer très rapidement, et donc un certain nombre de besoins qu'ils ont retardés et de consommation qu'ils ont retardés vont pouvoir s'exprimer. Il y a deux éléments qui vont jouer. Le premier élément, comme l'a dit Philippe Martin, il y a quand même dans l'aéronautique, dans un certain nombre de secteurs, un maintien de restrictions. Il y a une organisation du travail et de la consommation qui n'est plus exactement celle qu'elle était auparavant. Et puis, on était quand même dans une phase de ralentissement de la croissance économique à la fin de 2019, et il y a des secteurs qui, de toute façon, auraient connu des difficultés. Regardez les débats qu'il y a autour de Renault. Renault a commencé à indiquer que la reprise du travail allait être très rapide, et puis on commence maintenant à dire, en fait, elle ne pourra pas être ce qui était prévu auparavant. Et puis ensuite, on est passé à une nouvelle phase où on fait le procès de Carlos Ghosn, et on dit, en réalité, Renault aurait dû, de toute façon, supprimer des emplois, regarder l'évolution de sa production, baisser la voilure. Donc il y a des secteurs qui ont été secoués par les décisions de confinement et qui, indépendamment de ça, avaient de toute façon des difficultés et qui allaient devoir se réorganiser.
Il y aurait en effet des milliers de postes qui pourraient être supprimés chez Air France, chez Renault, mais également dans le secteur de la mode et de l'ameublement, Philippe Martin.
Oui, alors je reviens un peu sur la consommation parce que certainement le niveau de la demande, est-ce que la demande va revenir, les consommateurs, sera essentiel pour non seulement la croissance, mais évidemment l'emploi. Il y a des données qu'a l'INSEE en particulier sur les cartes bancaires qui sont plutôt encourageantes. C'est-à-dire on voit quand même, en effet, un fort redémarrage de la consommation dans les secteurs qui étaient fermés et qui réouvrent après le déconfinement. Et donc, un redémarrage de la consommation. Mais de fait, la grosse question, c'est de savoir est-ce que l'épargne qui a été contrainte à accumuler pendant le confinement va venir aider à augmenter la consommation, est-ce qu'il va y avoir un phénomène de rattrapage, ou est-ce que cette épargne qui a été forcée va devenir une épargne de précaution, parce que les ménages vont se dire, ben voilà, l'avenir quand même social va être difficile, et donc je préfère épargner plutôt que m'acheter une machine à laver ou une voiture, etc.
Et là, est-ce que l'État peut jouer un rôle, Philippe Martin, pour favoriser la consommation, comme par exemple baisser la TVA ? C'est ce qu'a décidé l'Allemagne ?
Alors l'Allemagne l'a fait, mais on n'est pas du tout dans la même situation que l'Allemagne. L'Allemagne est dans une situation où elle a un excédent commercial, alors nous on a un déficit commercial. Moi je ne suis pas favorable à une baisse de la TVA. L'expérience de 2009 où on avait baissé la TVA sur la restauration, l'étude qui avait été faite par l'Institut des politiques publiques avait montré que plus de 60% de cette baisse avait été en fait engrangée par les restaurateurs et un peu aussi pour les salaires, mais pas pour baisser les prix. Donc vous voyez, si on fait une baisse de TVA aujourd'hui à un moment où les marges des restaurants par exemple sont très faibles, ils vont réaugmenter les marges. Je pense qu'il y a d'autres instruments. Donc je pense que pour la demande, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, il y a quand même un gros problème social qui est devant nous et même déjà avec nous sur certaines catégories, c'est les ménages les plus fragiles, les précaires, les jeunes, ceux qui n'ont pas droit au chômage, etc. Et donc ça, je pense que c'est des personnes qui, si on leur donne des transferts sociaux, donc ça peut être par exemple l'allocation de rentrée scolaire, hein, ça peut être ce genre de choses, ça peut avoir un impact non seulement social mais aussi économique, même si l'objectif il doit être surtout social dans ce cas. On peut imaginer aussi, par exemple, des éco-chèques, hein, des chèques qui seraient donnés au ménage pour qu'ils dépensent sur des biens qui seraient labellisés écologiques ou économie locale, etc., etc. Donc, pour faire repartir la demande, on l'a fait aussi sur les voitures, hein, des aides pour des achats de voitures plutôt, par exemple, la voiture électrique. Donc, je pense plutôt que c'est ce genre de choses qu'il faut faire, mais c'est vrai que l'État a certainement un rôle à jouer pour déclencher la consommation et que pour les ménages dépensent cette épargne qu'ils ont accumulée pendant le confinement.
Jean-Marc Daniel, selon vous, l'État devrait-il jouer un rôle pour favoriser la consommation ?
Oui, je pense qu'il s'y doit jouer un rôle, c'est moins pour favoriser la consommation que pour soutenir les entreprises. Sur la baisse de la TVA, je suis frappé d'une sorte de contradiction qu'il y a dans le discours qui consiste à dire il faut baisser la TVA pour baisser les prix, et simultanément s'inquiéter du fait que la BCE n'arrive pas à avoir 2% d'inflation et à nous donner 2% d'inflation. Donc de deux choses l'une, ou bien on doit se réjouir d'une baisse des prix qui conforte le pouvoir d'achat, ce que j'estime effectivement la bonne idée, mais à ce moment-là, il faut un peu réfléchir aux demandes que l'on fait porter à la BCE et à l'efficacité de la politique monétaire par rapport à ces demandes. Sur le plan de l'organisation économique, je pense que la grande préoccupation, pour en revenir à une formule de notre ancien Premier ministre Manuel Valls, c'est que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et donc l'État doit tout faire pour préserver les entreprises. Et donc je crois qu'il y a deux mesures là, c'est de faire un effort fiscal mais vers les entreprises, donc c'est tout le débat sur les impôts de production que connaît bien Philippe Martin, et puis je pense aussi qu'il y a des secteurs où il va falloir augmenter la durée du temps de travail. Dans le BTP, les quelques semaines qui ont été perdues peuvent être rattrapées si on augmente la durée du temps de travail. Je cite assez souvent une formule de Maurice Thorez en 44 qui disait « produire d'abord, revendiquer ensuite ». Je pense qu'il y a des endroits où la première priorité, ça doit être d'alléger les contraintes sur la durée du temps de travail.
Vous citez Maurice Thorez, et bien justement, écoutons-le, le 12 avril 1945, Maurice Thorez, alors secrétaire général du Parti communiste français, en appelle à un effort national pour vaincre l'ennemi et relever le pays.
Il nous faut procurer à nos soldats des armes, des munitions, des équipements, des subsistances. Nous sommes en droit de compter sur l'aide de nos alliés anglais et américains. Mais nous devons surtout travailler d'arrache-pied pour remettre en marche nos propres usines. Sans doute, notre économie nationale est délabrée. Nos transports ont beaucoup souffert. Nous manquons de bien des choses. Mais nous ne sommes pas absolument sans ressources.
En quoi ces mots de Maurice Thorez résonnent-ils aujourd'hui, selon vous, Jean-Marc Daniel ?
Alors, il y a deux différences et un élément clé et fort dans ce que dit Maurice Thorez. Les deux différences par rapport à cette époque-là, c'est que toute une partie de l'appareil productif avait été détruite. Clairement, l'économie française souffrait d'un manque de capital. Il fallait reconstruire les maisons, les ponts, les usines, ce qui n'est pas le cas dans la situation dans laquelle nous sommes. Les usines ont été fermées, mais elles réouvrent et l'appareil productif n'a pas été détruit et abîmé. Deuxième élément, on est dans une période où en 45, il y a une partie de la population qui fait encore la guerre, et la partie qui a été la plus touchée par la guerre, c'est la partie qui s'est battue, c'est la partie jeune, c'est la partie qui est potentiellement la plus productive. Alors que, heureusement, le coronavirus a tué moins de monde qu'une guerre, et sur un plan strictement économique, même si c'est triste d'avoir vu partir 30 000 personnes, ces personnes étaient des personnes qui étaient pour la plupart à la retraite. Donc l'appareil productif, de façon le plus simple et le plus basique, n'a pas été touché, à la différence de ce qui se passait en 44-45. En revanche, je crois que effectivement, un des éléments clés, c'est que pour consommer, il faut produire. C'est un des points, là aussi, dans les 10 points que met en avant en général Nicolas Gregory Mankiw, là, le grand économiste américain. Le point 8, c'est le revenu dépend de la production. Et donc, il faut produire. Et pour produire, eh bien, il faut aller dans les usines, aller sur les lieux de travail, accepter une augmentation du temps de travail. Ce qui me frappe, c'est que la CGT qui a demandé à Sandouville et à Renault de fermer son usine de Sandouville est totalement en opposition avec cette démarche de Maurice Thorez qui consiste à dire et à constater que le pouvoir d'achat, la richesse, elle provient du travail.
Le revenu dépend de la production, nous dit Jean-Marc Daniel. Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Martin, avec cette idée qu'il faut privilégier peut-être une politique de l'offre du côté des entreprises plutôt qu'une politique de la demande du côté des ménages, pour le dire rapidement?
Moi, je ne ferais pas une telle séparation. Je crois que l'urgence, maintenant, c'est d'aider les entreprises à passer le cap, et ce qui signifie certainement qu'il faut trouver les moyens, de, par exemple, d'alléger la dette d'un certain nombre de ces entreprises, pour que les entreprises qui sont viables, c'est-à-dire des entreprises qui ont eu un énorme choc négatif sur leur chiffre d'affaires à cause du Covid, puissent passer et ne fassent pas faillite. Donc là, si vous voulez appeler ça une politique de l'offre, très bien, c'est en effet ça qu'il faut faire. Le risque après, et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la demande, c'est que ce choc d'offre au départ se transforme en choc de demande, c'est-à-dire que la baisse de revenus qu'ont subi un certain nombre de ménages, hein, c'est quand même le cas, même s'ils ont été en grande partie aidés par le chômage partiel, etc., ou l'inquiétude sur le futur fasse que justement la demande ne soit pas au rendez-vous lorsque l'offre s'est remise en place. Et donc il faut avoir une stratégie où on pense à la fois à l'offre, mais il faut aussi penser à la question de la demande, parce qu'il ne faut pas que, disons, au mois de septembre, octobre, novembre, quand l'offre sera en gros remise en marche, que la consommation ne soit pas présente. Et opposer offre-demande dans la situation actuelle ne paraît pas juste, parce que le choc, il est à la fois sur l'offre au départ, très clairement, hein, mais potentiellement, et c'est le risque, c'est que ça se transforme en une récession générée par un manque de demande.
Et pour permettre peut-être à l'économie de se relever, en tout cas la priorité en France et plus largement en Europe, ça a été la défense de l'emploi. C'est une politique qui a globalement fait ses preuves. Jean-Marc Daniel, quel regard portez-vous sur le chômage partiel ?
Alors, je pense que les mesures sur le chômage partiel étaient assez bienvenues. Effectivement, il fallait faire en sorte que les entreprises puissent continuer à survivre, d'une part, et qu'elles conservent le lien avec leurs salariés. Et donc là, je crois que les mesures qui ont été prises et les dispositions qui ont été mises en œuvre étaient tout à fait cohérentes. Je crois qu'il y a trois leçons à tirer, quand même, de ce qui s'est passé à partir de ce chômage partiel. La première leçon, c'est que le télétravail s'est beaucoup imposé. Donc il y a une réflexion à moyen terme des entreprises sur leur réorganisation, mais qui suppose d'attendre un peu que la reprise soit derrière nous. Le deuxième élément qui me paraît assez important, c'est que dans les discours que l'on entend, certains proposent de baisser les salaires pour permettre aux entreprises de passer la période difficile et donc, à ce moment-là, de réduire leurs coûts. Là où je rejoins Philippe Martin, je pense que ce serait une très mauvaise idée parce que ça handicaperait la demande. Encore une fois, je pense que la bonne solution, dès que l'on peut et dès que l'on sort de ces périodes de chômage partiel, c'est d'augmenter le temps de travail et le niveau de production. Puis, la troisième constat que je ferais, c'est que effectivement, si on a un discours qui est un peu confus, qui est un peu contradictoire, cela perturbe la vision que les entreprises ont. C'est-à-dire que les entreprises, elles ne pourront repartir dans un sentier d'investissement que si elles ont un peu une vision claire de ce qui va se passer. Et je pense que annoncer systématiquement des plans toutes les semaines avec des augmentations de dépenses publiques, c'est pas forcément très rassurant.
Philippe Martin, vous parleriez vous aussi d'une absence de vision, de politique qui serait trop court-termiste ?
Non, je serais moins négatif. Je pense que c'est vrai qu'il faut donner de la visibilité aux entreprises et aux ménages parce que les anticipations vont avoir un rôle déterminant, évidemment, sur la consommation et sur l'investissement. D'un autre côté, il faut bien voir aussi, et c'est vraiment la spécificité de cette crise, c'est qu'il y a quand même des aspects sectoriels très spécifiques, hein, le tourisme, la restauration, l'aéronautique. Et donc, je vois pas comment on peut faire sans faire des plans aussi sectoriels. Et c'est pour ça que, par exemple, une baisse de la TVA pour tout le monde, ça n'a pas tellement de sens, parce qu'on voit bien qu'il y a des secteurs qui marchent quand même relativement bien, puis il y a des secteurs qui sont très fortement impactés. Donc, en effet, le défi, c'est de cibler, donc ça peut être cibler des secteurs, et je pense que là, il n'y a pas d'incohérence. Ça peut être cibler aussi des ménages, parce qu'il y a des ménages, les précaires, les indépendants, les jeunes, qui n'ont pas été très fortement protégés pendant la crise, alors que les salariés et les fonctionnaires l'ont été, soit par le chômage partiel, soit parce qu'ils sont fonctionnaires. Et donc, ça implique en effet un peu de la dentelle, où il faut cibler des ménages et des types d'entreprises ou des secteurs. Et en effet, c'est important de donner une cohérence d'ensemble. La cohérence d'ensemble, je crois, c'est de dire on va protéger le plus possible l'outil productif, on va protéger les emplois et la consommation sera au rendez-vous si nécessaire et on fera des plans de relance de la demande.
On va revenir sur les plans de soutien aux différents secteurs que sont l'automobile, l'aéronautique. Mais d'abord, encore un mot sur le chômage partiel. Philippe Martin, les États-Unis n'ont pas pris de telles mesures et les économistes s'attendaient à une nouvelle hausse du chômage outre-Atlantique. Or, après une très forte augmentation en avril, le chômage a reculé au mois de mai aux États-Unis, même s'il reste extrêmement élevé, à plus de 13% de la population active. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Si on compare les États-Unis et l'Europe, en effet, on a fait des choix très différents. Moi, je crois quand même que, comme Jean-Marc Daniel, je crois que le chômage partiel est une bonne solution pour ce type de choc, parce que ça protège quand même à la fois les entreprises et les ménages. Donc, de ce point de vue, c'est une double protection qui est extrêmement utile. On peut penser que le chômage partiel doit évoluer, et d'ailleurs, il évolue. Je pense qu'il doit être moins généreux. Il faut qu'il y ait un reste à charge. Je pense que aujourd'hui, on va jusqu'à 4,5 SMIC, c'est le maximum et je pense qu'il est un peu élevé. Je pense qu'il faut diminuer le montant maximum du chômage partiel. Mais par rapport aux États-Unis, vous voyez qu'il y a eu une gigantesque augmentation du chômage, tout simplement parce que les entreprises peuvent licencier de manière extrêmement facile. Donc en effet, il y a une baisse du chômage qui est un peu surpris. Faut faire attention, il y a un débat sur ces chiffres. Qu'est-ce que ça signifie être au chômage aujourd'hui lorsque, par exemple, vous ne pouvez pas chercher du travail? Alors, la définition d'un chômeur, c'est quelqu'un qui cherche un travail. Et dans certaines situations, dans la situation sanitaire qu'on a connue, évidemment, vous ne pouvez pas chercher du travail.
Mais on peut tout de même se demander si la politique économique américaine n'était finalement pas si critiquable que cela. Les économistes ont beaucoup dit que le plan d'aide européen était bien plus efficace, bien plus pertinent que le plan américain. Est-ce que ces résultats ne jettent pas un peu le doute?
Non, je crois pas, parce que, regardez, on est quand même à des niveaux de taux de chômage qu'on n'a pas du tout atteint en Europe. Donc, certes, vous avez une baisse du chômage là maintenant aux États-Unis, mais ça vient après une explosion qui n'a jamais été, il n'y a jamais eu cette augmentation aussi énorme du chômage. Donc, non, je reste d'avis que la stratégie européenne est la bonne stratégie. Parce que c'est ce qui va permettre d'abord moins de casse sociale quand même aux États-Unis. Il faut bien voir que non seulement les gens perdent leur emploi, mais ils perdent aussi leur assurance maladie. Ils se retrouvent dans une situation sociale qui est absolument dramatique. Et d'ailleurs, la crise politique qui a lieu aujourd'hui, elle n'est pas sans lien évidemment avec la crise sociale.
Sur les différences de stratégie entre les États-Unis et l'Europe, Jean-Marc Daniel.
Je ferai deux remarques. La première remarque, c'est qu'effectivement, quand on mesure ce chômage, les taux de chômage, il y a un problème de définition. Et donc, on va être surpris de constater, par exemple, qu'avec la définition actuelle du chômage, le taux de chômage au deuxième trimestre en France aura été stable, voire aura peut-être diminué, puisqu'il faut un acte volontaire de recherche d'emploi et que cet acte n'est pas toujours évident dans la façon dont les services statistiques font leurs calculs. La deuxième chose que je mettrai en avant, c'est que la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis considèrent que le lien entre l'entreprise et ses salariés peut être rompu très rapidement et symétriquement, on revient et on retrouve un travail relativement rapidement. Ce qu'il y a de, à mon avis, d'assez frappant en Europe et singulièrement en France, c'est cette volonté de garder un lien entre les salariés et les entreprises par-delà les chocs qu'elles subissent. Et donc, dans une circonstance telle que celle que nous vivons, c'est-à-dire un moment où le choc est un choc exogène, c'est-à-dire c'est pas des mécanismes internes à l'économie, c'est pas une défaillance de l'économie de marché, c'est pas une défaillance du capitalisme libéral qui est à l'origine de la récession et du ralentissement économique, c'est un choc sanitaire et les décisions qui ont été prises pour résorber la crise sanitaire. Donc à partir de ce moment-là, qu'on maintienne un lien formel entre les entreprises et les salariés pendant cette période un peu aberrante qui est ce choc sanitaire, ça me paraît plutôt assez sain. Une toute dernière remarque dans la stratégie des Américains que je trouve assez intéressante, c'est que ils ont plus ou moins mis en œuvre ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire le fait de faire distribuer des revenus forfaitaires à une partie de la population en distribuant, je crois, $1,200 sur des comptes courants, et on s'aperçoit que la population n'a pas dépensé cet argent. C'est-à-dire que hélicoptère monnaie, c'est un fantasme. L'idée qu'il faille demander soit à la Banque centrale, soit à l'État, et en le faisant financer par la dette et la Banque centrale, d'augmenter brutalement et forfaitairement les revenus est une idée qui n'est pas opérationnelle, qui n'a pas de résultat positif.
Un dernier mot sur le chômage partiel encore, puisque on l'a dit depuis le 1er juin, l'État prend en charge 85% et non plus 100% du chômage partiel. Est-ce que selon vous, Philippe Martin, c'était une mesure nécessaire et pour quelles raisons ?
Il y a plusieurs phases. Il y a la phase pendant le confinement où, en effet, il fallait être extrêmement généreux et je pense que c'était bien de le faire. Mais assez rapidement, je pense qu'il fallait qu'il y ait, en effet, un reste à charge donc de 15%, comme vous l'avez dit, pour les entreprises. Il y a deux problèmes potentiels avec le chômage partiel. Il y a la question des fraudes, c'est-à-dire vous continuez à travailler, mais vous êtes payé non plus par votre employeur, mais par l'État. Bon, ça, c'est un problème parce que c'est illégal, c'est injuste et ça coûte cher à l'État. Et il y a le deuxième problème qui est ce que les économistes appellent un problème d'aléa moral, c'est-à-dire que si...
On a été coupé avec Philippe Martin. J'imagine, Jean-Marc Daniel, ce qu'allait dire Philippe Martin, c'est que le fait qu'il y ait un reste à charge pour les entreprises, ça va inciter davantage à la reprise de l'activité.
Oui, je suis assez d'accord avec les deux remarques faites par Philippe Martin. L'idée que, effectivement, il y a quand même des effets d'aubaine et des tentations à la fraude. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu énormément de dossiers qui ont été déposés au moment où le dispositif a été annoncé. Et en pratique, il y a beaucoup moins, en fait, même si le dispositif a bien fonctionné, il y a eu beaucoup moins de demandes concrètes qui ont été réalisées. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que le chômage partiel devienne une sorte de facilité récurrente. Comme on le disait à propos de Maurice Thorez, le plus vite on revient à l'activité, le mieux ça vaut. Donc il faut se montrer assez incitatif pour que les entreprises, même si elles n'ont pas une demande immédiate concrète, se remettent à travailler et éventuellement à recommencer à stocker pour rentrer dans un circuit normal d'activité et de production.
Quelle forme la relance doit-elle prendre en France et faut-il dépasser certains dogmes économiques? On en parle dans un instant, mais d'abord le groupe La Femme réveille l'économie avec It's Time to Wake Up sur France Culture. Time to Wake Up de La Femme sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, suite de notre débat sur la relance de l'économie avec Philippe Martin et Jean-Marc Daniel. Les crises sont-elles une occasion pour les théoriciens de l'économie de réinventer un certain nombre de dogmes? Le 23 octobre 2008, lors de la crise financière, Nicolas Sarkozy annonçait la fin du marché tout-puissant qui décide de tout. On l'écoute.
Cette crise, il fallait d'abord essayer de la maîtriser. Cette crise dont il est clair désormais qu'elle ne peut se résoudre sans une intervention massive des États, cette crise qui appelle d'urgence un nouvel ordre économique, financier, monétaire, exprime au fond un besoin profond de politique. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles.
Comme Nicolas Sarkozy avant lui, Emmanuel Macron a parlé de la nécessité de se réinventer au lendemain de la crise. Est-ce que l'on va assister à un changement de doctrine économique, selon vous, Philippe Martin ?
Oui, je pensais trop tôt pour le dire. C'est une crise extrêmement inédite, donc pour les économistes, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque c'est une crise de l'offre, encore une fois, au départ, mais qui potentiellement peut se transformer en crise de la demande. Donc, ce n'est pas une crise habituelle, et donc ça va nous obliger, en effet, à réfléchir fortement sur ce type de choc. Alors, le rôle de l'État, moi, je pense que dans toute crise économique, on se retrouve à demander à ce que l'État, en effet, soit celui qui, en gros, assure en dernier ressort le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire aide les entreprises et aide les ménages. Donc, ça n'est pas une surprise que, dans une situation de très grave crise économique, on se retourne vers l'État, et je trouve que c'est normal, et c'est le rôle de l'État, en effet, dans une crise aussi énorme, que de venir en aide à la fois aux ménages et aux entreprises. Est-ce que les théories économiques vont être totalement bouleversées? Moi, je me considère comme keynésien et je vois bien que cette crise actuelle n'est pas une crise keynésienne standard puisqu'elle n'est pas générée par un choc de demande. Mais n'empêche que je pense que les questions liées à un déficit de la demande vont peut-être se poser. Donc, je crois qu'il faut faire preuve d'imagination, il ne faut pas faire preuve de dogmatisme et il faut regarder à la fois du côté de l'offre et de la demande. Et puis, il ne faut pas s'interdire des choses qui paraissaient hétérodoxes il y a encore quelques mois.
La crise comme occasion de se réinventer, Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que vous en pensez ?
Le problème de cette crise et de toutes les crises, c'est que à chaque fois qu'il y a donc ce genre de difficultés que rencontre l'économie, un certain nombre de gens essaient de mettre en avant leurs idées qui sont plus ou moins farfelues et qui sont en tout cas assez souvent totalement déconnectées de la réalité. Et chaque crise permet de redécouvrir pour certains la pertinence de Karl Marx, les bienfaits du keynésianisme. Et puis une fois que les problèmes sont résolus, ben on passe à autre chose. Donc je crois qu'il faut voir trois éléments clés quand même dans ce qui s'est passé. Le premier élément, c'est que j'insiste là-dessus, ce n'est pas une défaillance du capitalisme, ce n'est pas une défaillance de la mondialisation, c'est les réponses qui ont été apportées par les États et par la politique économique à une crise sanitaire qui est extérieure au fonctionnement même de l'économie. La deuxième chose, c'est que la réponse qui a été apportée de façon assez générale, c'est de considérer qu'on devait prendre des mesures quoi qu'il en coûte. Et donc, on va se retrouver avec une masse colossale de dettes publiques. Et des enjeux, ça va être comment gérer cette dette publique, sachant que la réponse qui a été apportée, notamment après la crise de 2008-2009, c'est de maintenir des taux d'intérêt très bas. Et donc, une des questions que doivent se poser les économistes, c'est est-ce qu'on peut vivre durablement avec des taux d'intérêt qui ne représentent plus le risque, qui ne représentent plus une mesure du risque par rapport au temps, qui ne sont plus les taux d'intérêt tels qu'ils étaient définis naguère comme devant être égaux au taux de croissance.
Ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on peut vivre avec une économie dans laquelle il n'y a pas la marge de manœuvre que permet, par exemple, l'abaissement des taux directeurs ?
Que ne fait pas l'abaissement des taux directeurs et dans lequel l'épargne est systématiquement sacrifiée. C'est-à-dire où on est au plancher, où les taux directeurs peuvent plus baisser parce qu'on a véritablement atteint les limites. Et puis, est-ce que concrètement, l'épargnant doit être considéré comme définitivement un personnage secondaire de la réalité économique ? Et le dernier point, c'est que je crois que le rapport au travail va changer. Notre président de la République, quand il était candidat, avait fait des discours sur le passage de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. Je crois que là, le télétravail, la réorganisation du travail, ça peut être effectivement être un des résultats indirects et non perçus au départ de la situation que nous avons connue pendant le confinement.
J'aimerais tout de même vous demander, Philippe Martin, est-ce qu'il faut croire dans une volonté d'un changement de doctrine de la part du chef de l'État lorsqu'on voit la commission d'experts sur les grands défis économiques qu'il a mis en place avec à sa tête le prix Nobel Jean Tirole et également Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI? Est-ce que finalement on ne reste pas là dans la même ligne économique que ce à quoi on assiste depuis le début du quinquennat?
Je ne sais pas, cette commission, elle ne se veut pas être un parlement des économistes, mais dans cette commission, vous avez des gens qui sont assez différents, qui seraient certainement classés assez à gauche. Je ne sais pas si c'est hétérodoxe, orthodoxe, mais ce n'est pas une séparation que je trouve très pertinente. Mais Paul Krugman ou Danny Roderick sont des économistes qui sont très fortement keynésiens.
Mais on ne trouve pas tout le courant, Thomas Piketty, Esther Duflo, Gabriel Zucman, par exemple.
Alors, c'est vrai, mais je ne sais pas si Thomas Piketty aurait accepté d'être dans cette commission. Je pense que non. Mais je crois que quelqu'un comme Paul Krugman ou Danny Roderick ne sont pas très loin des idées de Thomas Piketty, hein, de ce point de vue.
Donc vous croyez à cette volonté du chef de l'État de vraiment repenser, réinventer ses dogmes économiques ?
Alors, je ne sais pas si l'objectif, c'est de repenser les dogmes économiques.
Ah, hein, bah, ça a été affiché comme tel.
Mais je pense que c'est la question de savoir quelles sont les bonnes politiques économiques à mettre en œuvre dans les 5-10 prochaines années. Alors, on demande en effet à des théoriciens économiques, et qui sont assez divers hein, dans cette commission, de réfléchir à un certain nombre d'objectifs différents. Et j'attends de voir. On pense qu'il ne faut pas faire un procès ex ante sur la qualité de cette commission.
Et l'objectif, c'est effectivement de cette commission d'experts, c'est de penser le climat, les inégalités et le vieillissement. Quand on voit les thèmes qu'ils sont choisis, peut-être que on peut davantage croire en une volonté de réinvention, Jean-Marc Daniel, de la part du chef de l'État.
Ce qui est intéressant, c'est d'abord le fait que les thèmes qui sont choisis ne sont pas des thèmes qui sont immédiatement connectés avec ce que nous venons de vivre. Le vieillissement, c'est un thème qui est un thème qui correspondait davantage, d'ailleurs, à la période antérieure du quinquennat, quand on avait débattu de l'avenir du régime de retraite. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens de qualité, des gens de très haut niveau. Donc on peut considérer que ce ne sont pas des gens qui ont une approche sectaire de l'activité économique et de la théorisation de l'économie. Et puis, vous parliez de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il allait refonder le capitalisme. Et tout ça a été emporté assez rapidement.
Avec Amartya Sen à l'époque et Joseph Stiglitz.
Oui. Et donc, je crois qu'il faut avoir une vision assez pragmatique. C'est Tony Blair qui disait, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de politique économique de gauche et de politique économique de droite. Il y a celle qui réussit, c'est celle qui échoue. Et je crois qu'au stade d'un président de la République ou d'un gouvernement, l'enjeu, c'est de véritablement identifier ce qui est réussi et ce qui échoue par rapport à quelques objectifs politiques qui ont été prédéfinis, mais d'avoir une vision assez pragmatique de la réalité et de ce que l'on doit faire. Le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent utiliser effectivement la crise pour remettre en selle des idées vieilles. Ce qui serait grave, c'est que le pouvoir se soumette à certaines lubies comme le retour de l'ISF, c'est-à-dire de considérer que parce qu'il y a eu le coronavirus, il faut rétablir l'ISF. Donc je crois qu'il faut avoir un peu de recul, se dire que effectivement les experts vont faire des propositions, que le gouvernement choisira avec un objectif et avec un souci de réussir de façon concrète par rapport à un programme politique, mais aborder ça de façon très doctrinale et très sectaire, ça me paraît délicat.
Le retour de l'ISF que demande effectivement Esther Duflo ou Thomas Piketty, mais qui n'est pas à l'ordre du jour. Et alors, on l'a dit, la dette publique pourrait atteindre 120% du PIB à la fin de l'année. Face à cette dette qui se creuse, on peut se demander s'il faudra tout de même augmenter les impôts. En 1976, c'est une vague de sécheresse qui avait frappé la France. Le Premier ministre Raymond Barre annonce alors la création d'un impôt spécial. On l'écoute.
Les agriculteurs ont été frappés par une calamité nationale. Il est normal, par conséquent, qu'il y ait un effort de solidarité nationale à leur égard. Je vous rappelle que c'est au mois de juin dernier que le président de la République a dit que le revenu des agriculteurs pour 1976 ne devrait pas être inférieur à celui qu'ils avaient obtenu en 1975. Mais la France est dans une situation inflationniste. Par conséquent, l'effort de solidarité nationale doit être effectué dans des conditions qui n'aggravent pas la situation des finances publiques. Il est donc normal que l'on ait recours à l'impôt. Je sais que certains préconisent un recours à l'emprunt. J'ai le sentiment que c'est une forme assez subtile d'égoïsme. Il n'y aura pas de recours à l'emprunt pour une raison très simple. C'est que recourir à l'emprunt signifie que l'on transférerait sur les générations futures la charge de l'effort national qui doit être accompli.
Le Premier ministre Raymond Barre en 1976. Aujourd'hui encore, le caractère exceptionnel, exogène de la crise justifie d'augmenter les impôts selon vous, Jean-Marc Daniel ?
Oui, j'ai pris position d'ailleurs dans le journal Les Échos pour la création de ce que j'appelle un impôt coronavirus. Alors, il ne s'agit pas de multiplier les impôts et le souci de Raymond Barre d'éviter une détérioration des finances publiques est un souci tout à fait estimable mais qui est bien loin de la situation dans laquelle nous sommes. Mais je pense que cet impôt doit être un impôt véritablement de solidarité. Or, si on demande à la population active, aux gens qui travaillent, un effort en termes d'augmentation de la durée du temps de travail, un effort productif, je pense que cet impôt doit être centré sur ceux qui ne peuvent pas s'associer à cet effort parce qu'ils ne travaillent plus. Et donc, je proposais d'augmenter la CSG sur les retraités de façon à manifester un geste à la fois financier pour éviter une dérive qui, de toute façon, a une ampleur absolument invraisemblable, et d'autre part, pour manifester cette solidarité des personnes âgées avec l'ensemble de la population sous forme financière. Je crois que, néanmoins, il ne faut pas se faire d'illusions. On est arrivé à des niveaux d'endettement qui sont problématiques et que la réponse ne peut pas être fiscale au stade où nous en sommes.
Sur le niveau d'endettement, Philippe Martin, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un endettement à 120% du PIB et est-ce que l'augmentation des impôts pourrait constituer une réponse ?
Alors, je suis beaucoup moins inquiet que Jean-Marie Daniel sur la question de la dette. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux risques. Il y a en effet le risque de la dette et puis il y a le risque d'effondrement ou de récession prolongée d'un point de vue économique. Et je pense que le deuxième risque est beaucoup plus important que le premier. Aujourd'hui, l'État s'endette à 0% sur des emprunts de 10 ans, ce qui d'ailleurs est complètement différent des années 70. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. On est dans une situation aujourd'hui où la politique monétaire fait que vous avez un quasi-financement monétaire des dépenses publiques, parce que aujourd'hui on est dans une situation où l'État a des conditions d'endettement, d'emprunt qui sont extrêmement favorables. Donc je pense qu'aujourd'hui, parler d'augmentation des impôts, ce serait faire la même erreur qui a été faite d'ailleurs par les présidents Sarkozy et Hollande en 2011 et 2012, où on a commencé à paniquer sur la dette publique et où on s'est dit il faut faire un ajustement budgétaire, il faut faire de l'austérité, il faut augmenter les impôts. Et boum patatras, hein, on a vu ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que le début de reprise qu'on avait en 2010-2011 s'est arrêté immédiatement et on a eu 10 ans de crise, de récession depuis en gros 2009 avec une croissance très faible. Donc je crois qu'il faut surtout pas faire cette erreur et dans une situation où le taux d'intérêt est aussi faible et où l'État peut se financer très facilement sur les marchés, je pense que l'investissement que l'État fait dans l'aide aux entreprises, l'aide aux ménages, c'est un investissement dont le rendement est très clairement supérieur à zéro. Le coût de cet investissement aujourd'hui sur les marchés, c'est 0% à 10 ans. Et bien moi, je considère que dans la situation actuelle, le rendement de cet investissement, il est certainement supérieur à zéro. Donc, si on stabilise pour un temps la dette à 120% du PIB, encore une fois, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ça ne m'inquiète pas, parce qu'il faut bien voir les deux risques qu'on a. Et encore une fois, le risque de crise économique me paraît beaucoup plus grave que celui de la dette, qui est en gros assurée aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne et par le fait que vous avez une épargne très excédentaire dans le monde. Tout le monde veut épargner. Donc c'est là aussi où je suis en désaccord avec Jean-Marc Daniel. Il n'y a pas de problème d'épargne aujourd'hui. Il y a une épargne excédentaire. Il y a beaucoup trop d'épargne. D'ailleurs, on le voit dans la zone euro, puisque l'épargne est supérieure à l'investissement.
Et puis, ce que disait Raymond Barre aussi, c'est que l'endettement était une mauvaise solution, car, dit-il, nous sommes dans une situation inflationniste. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, Jean-Marc Daniel. La BCE a encore revu à la baisse l'inflation de la zone euro.
Oui, non, il est clair qu'on n'est pas en situation inflationniste, et donc il n'y a pas de menace que la création de monnaie immédiatement débouche sur de l'inflation. Encore que on commence à avoir atteint là aussi des niveaux tels que un débat est en train de naître entre économistes sur le thème. Il va y avoir quand même un moment où toute cette injection de liquidité qui finit par rebondir sous forme de création de monnaie par les banques commerciales va déstabiliser les prix. Bon, pour l'instant, effectivement, apparemment, on n'en est pas encore là. Mais ce que disait Raymond Barre aussi, c'est qu'on reportait la facture sur la génération future. Et je crois qu'il y a un moment là aussi où laisser à la génération future, alors on parle beaucoup de la dette écologique, de tout ce qu'on va laisser sous forme de détérioration de l'environnement, laisser une dette financière dont on n'est pas sûr que les taux d'intérêt soient durablement, et en tout cas à l'horizon de 20-30 ans aussi bas, tout ça, ça pose quand même un problème de solidarité intergénérationnelle. C'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, que je ne pense pas qu'il faille augmenter les impôts et faire le matraquage fiscal qui avait été le symbole du début du quinquennat de François Hollande, mais faire un appel à la solidarité pour une partie de la population qui est la population qui effectivement ne peut pas s'associer à l'effort collectif sous forme de travail me paraît indispensable. Le dernier élément, c'est que il y a une sorte de piège sur les taux d'intérêt, même si l'épargne est une épargne qui est relativement abondante, notamment du fait du vieillissement de la population, il y a quand même un problème qui est ce que doit être le taux d'intérêt. On maintient des taux d'intérêt artificiellement bas par des politiques monétaires très accommodantes, et ça détruit même le sens de ce qu'est le temps, de ce qu'est le risque. On commence à dire il y a des entreprises zombies qui sont maintenues en vie alors qu'elles ne devraient pas l'être du fait de subventions publiques et de taux d'intérêt très bas, et ça retarde cette dynamique de destruction créatrice qui est à l'origine de la croissance. Donc je crois qu'il y a quand même un problème derrière la dette publique qui est qu'elle est associée systématiquement à des taux d'intérêt trop bas.
C'est effectivement un risque, Philippe Martin, que le soutien aux entreprises s'adresse à des entreprises qui auraient dû disparaître dans le cadre d'une économie hors crise.
Oui, c'est vrai que quand on va aider les entreprises, il va y avoir un exercice extrêmement difficile où on va vouloir aider les entreprises qui, en gros, sont des entreprises viables, même si elles ont un actif qui est inférieur au passif parce qu'elles ont subi un choc sur leur chiffre d'affaires énorme. Mais vous voulez pas, a priori, aider les entreprises qui, de toute façon, étaient dans une situation très difficile avant la crise. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'aider trop d'entreprises? Moi, je crois que le risque, il est plutôt inverse. Je crois que le risque, c'est de ne pas suffisamment aider les entreprises et de faire l'expérience d'une destruction trop forte de l'appareil productif. Les entreprises zombies, je vois bien conceptuellement ce que c'est. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je crois que la meilleure manière qu'un certain nombre d'entreprises disparaissent ou se fassent racheter, c'est quand il y aura une très forte croissance et que ces entreprises qui sont pas très bonnes, pas très productives, pas très compétitives, en gros, puissent pas augmenter les salaires parce que elles se feront piquer leurs salariés par d'autres entreprises plus performantes, plus compétentes. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire et pas en fermant trop fortement et trop rapidement un certain nombre d'entreprises. Dans une situation aussi difficile qu'on est en train de vivre aujourd'hui, moi, j'aurais tendance plutôt à aider plus fortement les entreprises plutôt qu'à se dire bon bah finalement c'est une bonne chose que beaucoup d'entreprises disparaissent parce que parmi celles qui disparaissent, il y en a certainement qui sont pas très compétentes et pas très performantes.
Et puis vous l'avez dit, l'État a ciblé les secteurs qu'il fallait soutenir. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron lors de l'annonce du plan de soutien à l'industrie automobile. C'était le 26 mai dernier.
Nous nous devons d'être unis, constructeurs, l'ensemble des sous-traitants et leurs salariés, l'État, bien entendu, avec plusieurs objectifs. Faire en sorte qu'aucun modèle produit en France ne quitte le territoire français en production. Et donc avoir une ambition clairement défensive, qui est de défendre notre tissu industriel, de nous battre pour aider l'ensemble des salariés du secteur et de leurs employeurs. Ensuite, augmenter la valeur ajoutée produite en France. Ça veut dire mettre notre industrie automobile au cœur du défi de la modernisation, de l'électrique et de l'autonome. Et bien évidemment, cela veut dire aussi porter cette ambition écologique en maximisant les activités en France sur ces secteurs, en particulier l'électrique.
Il faut défendre notre tissu industriel, nous dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut voir dans ce discours le retour de l'État stratège, Philippe Martin ?
Je ne sais pas, je pense que ça signifie c'est qu'il faut avoir une politique certainement d'attractivité et de compétitivité sur en particulier le secteur manufacturier. Donc moi je défends par exemple une baisse des impôts de production, hein, qui sont des impôts qui créent beaucoup de distorsions, qui sont en fait une taxe sur les exportations, qui sont une subvention aux importations. Les impôts de production, hein, c'est les impôts que payent les entreprises avant même d'avoir fait des profits. Et la France est championne en Europe de ces impôts. Donc si on veut en effet qu'il y ait une relocalisation de l'industrie manufacturière en France, je pense qu'une politique de compétitivité, d'attractivité est certainement nécessaire. Donc il faut réduire ces impôts qui pèsent sur la production. Ça ne veut pas dire baisser l'impôt sur les sociétés. Je pense que c'est un impôt qui est moins mauvais qu'on ne le dit. Mais en revanche, ces impôts de production sont certainement un boulet pour les entreprises. Mais vous voyez qu'on va avoir ce débat parce qu'on veut relocaliser la production industrielle, mais en même temps, c'est vrai que quand on veut créer une entreprise ou créer une industrie, surtout en France, bah, c'est pas toujours facile. Hein. La plupart des Français n'ont pas toujours envie d'avoir une usine à côté de chez eux. Donc on est un peu plein de contradictions, c'est-à-dire qu'on voudrait relocaliser, mais en même temps, pas à côté de chez nous.
Jean-Marc Daniel, sur la relocalisation et les difficultés que cela pose, notamment en termes de hausse des prix, est-ce qu'il y a certains secteurs ou certaines étapes de la production qui devraient, selon vous, être localisées en France ?
Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a deux horizons de temps. Il faut aider les entreprises, clairement, à passer cette période difficile. Mais il ne faut pas que ce soit l'occasion de remettre en place des idées, des systèmes, des stratégies protectionnistes. L'État stratège, il a échoué. Je ne vais pas revenir longuement sur le Concorde, le plan calcul, le plan machine, outils, tout ça, tout ça. Et la relocalisation, il faut avoir conscience que ça représente trois éléments clés. Le premier élément, effectivement, c'est une augmentation des coûts, donc une baisse à terme du pouvoir d'achat. Le deuxième élément, c'est que la relocalisation, à partir du moment où elle est dirigée, gouvernée, pensée sur un plan politique, elle est l'objet de lobbies, elle est l'objet de rapports de force, alors que l'avantage du libre-échange, de la mondialisation, c'est que des avantages comparatifs, normalement, émergent naturellement. Et je suis toujours très surpris de voir que ce soit les Européens qui soient les plus attachés apparemment à la relocalisation, à des idées protectionnistes, alors que la zone euro n'arrête pas de dégager des excédents extérieurs. Alors vous me direz, c'est le fait de l'Allemagne, mais encore sur les dernières statistiques, on a vu que de mars 2019 à mars 2020, l'excédent extérieur, l'excédent de la balance des paiements courants de la zone euro, était de 340 milliards d'euros. Donc la zone euro n'a pas besoin de se protéger, de se relocaliser des activités. Elle a la capacité de se fournir à l'étranger en échange des services et des productions qu'elle fournit elle-même. Donc je pense que la relocalisation est une démarche politique et pas très saine.
Si elle veut imposer un certain nombre de normes sociales et environnementales, est-ce que cette question de la relocalisation ne fait pas davantage sens? Et est-ce qu'il n'y a pas des domaines, des secteurs dans lesquels la souveraineté est nécessaire? Je pense par exemple au secteur pharmaceutique.
La liste des secteurs où on a besoin de souveraineté, encore une fois, elle devient politiquement un peu arbitraire. C'est-à-dire que on parle du secteur pharmaceutique, mais il y a encore un an, on avait décidé, l'armée a décidé de commander son fusil dans un appel d'offres, à des entreprises allemandes. Et donc, un certain nombre de gens avaient dit « Ah, mais c'est un problème de souveraineté ». Et donc, effectivement, on pourrait penser que faire faire son fusil par un pays étranger, fût-il ami et fût-il durablement notre allié, c'est quand même une atteinte à notre souveraineté. Bon, à l'époque, finalement, le gouvernement avait tranché. Pourquoi est-ce que maintenant, il considérait qu'il faut faire des masques en France et pas les fusils de l'armée? Donc, une fois, c'est assez arbitraire. Je crois que le meilleur moyen de trancher, c'est quand même de laisser le marché et la mondialisation agir, parce que c'est un avantage là qui est objectif, mesurable et incontestable, c'est que les prix baissent et donc le pouvoir d'achat augmente. En outre, de là, considérer que systématiquement nous sommes plus vertueux, nous, en termes environnementaux et en termes sociaux que les autres pays, c'est là aussi un peu réducteur.
Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un débat, Philippe Martin, sur les secteurs que l'on considère comme nécessitant une souveraineté, sinon française, au moins européenne?
C'est vrai, je suis un petit peu méfiant sur cette définition de ce que sont les secteurs stratégiques. J'aurais tendance à penser que certainement il faut aider la recherche et le développement, l'innovation. Je pense que l'industrie a été beaucoup taxée, je parlais des impôts de production, donc je pense que c'est plutôt une politique générale d'attractivité, de compétitivité. Et puis, et c'est là peut-être que je suis en désaccord avec Jean-Marc Daniel, je pense quand même que le fait qu'on ait une politique environnementale assez ambitieuse en France et en Europe, il faut quand même qu'on la protège avec, par exemple, des mécanismes d'ajustement aux frontières. Parce que si on veut qu'il y ait un coût sur le CO2, ce qui est un coût pour notre industrie, eh bien, il ne faut pas que, du coup, on délocalise les productions industrielles en dehors de l'Union européenne où les réglementations, où le coût du CO2 est plus faible. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir des mécanismes d'ajustement qui remettent un peu à l'équilibre quand, de fait, on s'impose, et pour de bonnes raisons, des réglementations en particulier sur le plan environnemental qui font qu'on augmente les coûts de production en Europe. Parce que sinon, on a ce qu'on appelle des fuites de carbone, c'est-à-dire que en fait, on délocalise une partie de l'industrie dans des pays comme la Chine qui ont beaucoup moins de réglementations sur les émissions de CO2, par exemple. Et à la fin, non seulement on perd de l'industrie, mais en plus, au niveau global, on augmente les émissions de CO2 parce que la production en Chine est plus polluante. Donc je pense qu'il faut quand même ces mécanismes d'ajustement plutôt et surtout d'ailleurs pour des objectifs environnementaux que des objectifs industriels.
On a vu l'État demander un certain nombre de conditions aux entreprises qu'il soutenait, de prendre des engagements écologiques notamment. Mais alors, Jean-Marc Daniel, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce qu'une compagnie aérienne comme Air France par exemple peut vraiment devenir plus verte?
Je crois qu'il y a là aussi la confusion entre deux exercices. Il y a un exercice qui est tout à fait nécessaire de lutte contre les émissions de gaz carbonique et il y a une sorte, non pas d'unanimité, mais une forme de consensus qui se fait parmi les économistes et qui consiste à dire qu'il faut définir un prix du carbone, qu'il faut mettre en place des taxes carbone, qu'il faut, dans le cadre des COP qui se succèdent, essayer de définir des règles qui soient partagées par l'ensemble des pays. Donc je pense qu'il y a cet exercice-là. Et puis il y a un deuxième exercice qui est l'activité productive traditionnelle d'une entreprise. À vouloir mélanger les deux, je crains qu'on arrive à une confusion. C'est d'ailleurs tout le débat sur la raison d'être, sur tout ce qui avait été associé à la loi Pacte. On voit bien que les entreprises, avant d'avoir une raison d'être, il faut qu'elles soit. Et avant d'avoir une raison d'être, il faut être. Et donc, à vouloir mélanger les deux, on finit par perdre sur les deux tableaux. Donc, concrètement, je pense qu'il faut réfléchir à la raison pour laquelle la taxe carbone avait suscité une telle opposition au sein de la population, la relégitimer sur le plan politique, et en revanche, laisser vivre les entreprises.
Philippe Martin, peut-être un mot sur ces conditions imposées aux entreprises et ces engagements écologiques demandés notamment à Air France, mais aussi à Renault, on pense aux véhicules électriques.
Oui, je crois qu'il faut faire en effet attention. Je crois qu'il y a deux objectifs, et en économie, quand on a deux objectifs, on veut avoir deux instruments. Il y a l'objectif de sauvegarder les entreprises et puis l'objectif de décarboner l'économie. Et donc les instruments, ils doivent être assez différents. Et pour décarboner l'économie, c'est en effet des réglementations, des investissements, c'est potentiellement de la taxation aussi. Mais je pense qu'il faut faire attention de pas tout mélanger. En revanche, cette crise peut quand même être l'occasion de faire des investissements où là, en effet, l'État est absolument nécessaire. On pense par exemple aux recharges électriques, à la voiture électrique. Là, certainement, il y a des effets d'économie d'échelle où l'intervention de l'État, la réglementation, les incitations sont nécessaires. Donc, cette crise peut être l'occasion d'accélérer la décarbonation de l'économie.
Mais par des investissements, vous n'êtes pas en faveur d'un conditionnement du versement de l'aide publique?
Ou des réglementations, ou des taxations. Après, je pense que c'est un tout petit peu dangereux, en effet, de mettre trop de conditions. Encore une fois, on a d'autres instruments qui sont, à mon avis, plus efficaces pour décarboner l'économie. Et vous voyez que si on élimine, par exemple, le transport aérien à l'intérieur de la France, pourquoi pas, hein, moi j'ai pas d'opposition, mais ne croyons pas que c'est ça qui va régler le problème des émissions de CO2, ça va être une toute petite partie du problème. Donc il faut pas utiliser des choses qui apparaissent symboliques lorsque le gros de la décarbonation de l'économie, elle est devant nous, hein, elle n'est pas du tout faite.
On a parlé d'Air France et de Renault, mais concernant les PME et TPE, est-ce qu'il ne faudrait pas une relance à l'échelle régionale? Philippe Martin, le 28 mai, 19 présidents de régions et collectivités territoriales ont signé une tribune dans Le Monde appelant justement à participer davantage à la relance.
Oui, je crois que c'est une bonne chose, parce qu'en effet, une grosse partie des entreprises, la connaissance de ces entreprises, elle se fait à un niveau très local. Et donc, il y a des instruments, des interventions au niveau local qui sont, à mon avis, plus efficaces que quand elles se font au niveau centralisé. Donc, je pense que là, avoir des stratégies potentiellement locales sur certains secteurs peut être, à mon avis, extrêmement utile. En France, on a quand même, en effet, le défaut de beaucoup décider au niveau de Paris et de ne pas prendre en compte l'information qui est au niveau local, des communes, des régions, etc.
Pour conclure, quels sont peut-être les enseignements économiques qu'on peut d'ores et déjà tirer de la crise? Peut-être ce que vient de dire Philippe Martin, que la réflexion économique doit aussi se mener au niveau local, Jean-Marc Daniel?
Ah oui, je pense que le niveau local est très important. Néanmoins, ce qui m'inquiète, c'est que on veut renforcer le niveau local. On s'est réjoui du fait que la Commission européenne allait pouvoir emprunter des sommes assez importantes pour dynamiser l'économie. La réponse est assez systématiquement de croire que c'est en multipliant les dépenses publiques et en les faisant porter par différents niveaux, différents échelons de la hiérarchie administrative, qu'on résoudra les problèmes. Une des leçons aussi à tirer, c'est qu'il faut être très près du terrain et surtout éviter de multiplier les intervenants, de multiplier les processus bureaucratiques, de donner trop de pouvoir à ces structures publiques. Il vaut mieux avoir des structures légères, locales et proches du terrain, plutôt que de multiplier les échelons administratifs qui se mêlent de l'activité économique.
Et pour vous, Philippe Martin, quelle est la clé de la relance aujourd'hui?
C'est difficile, là, vous me posez une question. La clé, je pense qu'en effet, la relocalisation d'un certain nombre de décisions à niveau communal ou régional, ça paraît assez évident. Mais là, d'un point de vue plus macro, hein, c'est ce qu'on disait au début, c'est vraiment l'idée de dire il y a plusieurs phases dans la stratégie macroéconomique. Il y a une phase de reprise maintenant où on aide surtout les entreprises, potentiellement un peu plus tard, la demande, et puis de transformation de l'économie, et où l'enjeu, évidemment, c'est la décarbonation de l'économie. C'est ça, quand même, le prochain grand risque et qui vient très rapidement. Donc, l'enjeu, je pense, c'est de transformer l'économie sur une économie moins dépendante du CO2.
I am not a dog on a chain. I use my own brain.
I am not a dog on a chain, extrait du dernier album de Morrissey. Merci beaucoup Philippe Martin et Jean-Marc Daniel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Macron, la valse folle de Jupiter, paru aux éditions de l'Archipel. Un grand merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria-Brand, Gwendoline Troyano et Thibaut Affringue. À la réalisation aujourd'hui, Jean-Christophe Francis, à la technique Inès de Brune. Demain, liquide mais sans bulle s'il vous plaît, la finance peut-elle soutenir la relance de l'économie? On posera la question à Yamina Tadjelin-Fourneron et Catherine Louboschinski. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chain. I use my own brain. I do not read newspapers, they are troublemakers. Listen out for what's not shown to you, and there you find the truth. For in a civilized and careful way, they'll sculpture all your views. So open up your nervous mouth and feel the words come streaming out in volume, pitch and rising cries, opening your blinkered eyes, for otherwise you'll never know who you are or all that you can do. If you want to, if you want to, I am not a dog on a chain. You've got to be insane. One is company and two is a crowd, and crowds are loud. Oh, maybe I'll be skinned alive by Canada Goose because of my views, because of the truth, because of my fleece, because of my niece, like drinking ink, the words it